encore gris que nous.
Et c'est vrai, mais c'est purement théorique ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question du Mexique, de montage, de scénographie, de Roméo et Juliette, de peinture et même de Juliette Binoche. Avec Peter Greenaway qui réalise Que Viva Eisenstein, un film halluciné pour un exercice d'admiration de l'auteur de Meurtre dans un jardin anglais à un réalisateur de la grève, Benoît Lagan.
Et ce sera l'occasion de revenir sur l'œuvre plastique du cinéaste britannique ou comment appliquer l'art du montage de son maître dans un film qui travaille la couleur dans un, je cite, triptyque en cinémascope.
19h30, la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme, Jean-Marc.
Orson Welles à l'occasion de la rétrospective de la Cinémathèque française.
Dont vous êtes l'attaché de presse. 19h35, n'importe quoi. Plateau, changement de décor avec Éric Ruff. Quelques jours après la présentation de la nouvelle saison de la Comédie française, et un an après en avoir été nommé l'administrateur général, portrait d'un comédien metteur en scène et scénographe, Émilie Chaudet.
Longtemps vu comme un jeune premier sur la scène, encore vu comme un bâtisseur en coulisses, un surnom qui vaut autant pour la construction de ses décors que pour celle désormais de sa programmation.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle. Ah, le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre sur le son du jour. Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Donc votre son du jour, ce sera ?
Ce sera, j'ai eu peur que vous me laissiez toute seule. Eh bien,
jamais.
Ce sera un son sur la direction du Festival d'Avignon qui a annoncé aujourd'hui qu'un spectacle a rejoint à la dernière minute la programmation du Festival In. Et ce, 2 mois après avoir annoncé cette programmation officielle et 1 semaine d'ailleurs que l'allocation des places est ouverte puisqu'on peut aujourd'hui acheter ses places pour le Festival d'Avignon. Le spectacle choisi sera donné en co-réalisation avec le Centre Dramatique d'Aubervilliers. Il s'appelle 81 Avenue Victor Hugo. Il a été créé notamment donc au Théâtre de la Commune il y a quelques semaines, et il met en scène le combat de migrants sans papier qui squattent une ancienne agence Pôle emploi de la ville de Seine-Saint-Denis. Les 8 personnages, les 8 acteurs ne sont pas des acteurs professionnels. Alors justement, j'ai demandé à Paul Rondin, directeur délégué du festival, pourquoi Olivier Py avait tenu à intégrer ce spectacle au dernier moment.
Qui jouent, ce sont des acteurs eux-mêmes sans papier qui sont issus de ce collectif d'immigrés qui s'est installé dans une ancienne antenne de Pôle emploi, ça ne s'invente pas, et qui demande la régularisation. Pourquoi l'avoir intégré au dernier moment au Festival d'Avignon ? Parce que nous devons savoir aussi être en réaction à ce qui se passe dans la société et ouvrir nos portes indépendamment d'une programmation qui se prévoit très longtemps à l'avance. C'est-à-dire le rôle politique du festival est parfaitement affirmé avec cette idée d'hospitalité.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. C'est un dossier média ce soir. Le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative en France, vient de casser une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le CSA avait en effet refusé l'année dernière à 2 chaînes de la TNT payante, Paris Première et LCI, de passer sur la TNT gratuite.
Alors c'est un dossier média, c'est un dossier un peu technique, on va essayer de le comprendre. Donc cette décision du CSA, elle date de juillet 2014. À ce moment-là, plusieurs chaînes payantes de la TNT, et donc notamment Paris Première qui appartient au groupe M6 et LCI, la chaîne d'info payante de TF1, avaient demandé à passer en gratuit pour survivre, notamment en faisant fructifier leurs recettes publicitaires. Le CSA avait rendu une décision négative en expliquant qu'il n'y aurait pas de recettes publicitaires suffisantes pour tout le monde. Les deux chaînes avaient alors demandé porter un recours devant la haute autorité administrative, le Conseil d'État, qui vient donc de désavouer le CSA, qui n'aurait pas respecté la procédure appropriée, comme nous l'explique Marc Ress. Il est rédacteur en chef de Next Impact, un site d'actualité numérique.
L'an passé, lorsque le CSA a fait connaître son refus, il a publié le même jour une étude d'impact qui mesurait un petit peu le marché publicitaire, etc., etc., les conséquences qu'aurait généré un tel passage à TNT gratuite. Le CSA considérait que leur passage en TNT gratuite générerait une espèce de séisme publicitaire parmi les chaînes qui sont actuellement en mode gratuit. Mais le souci, c'est que dans son agenda, il s'est un petit peu planté, le CSA. Il a diffusé cette étude d'impact le même jour que la diffusion de sa décision. Et les conseils d'État lui ont expliqué que ça, c'était pas possible. Il aurait dû d'abord respecter une espèce de logique, à savoir d'abord diffuser l'étude d'impact, attendre un petit peu, recueillir des observations de tiers concurrents, etc., etc., et ensuite rendre sa décision, ce qu'elle n'a pas fait, le CSA. Résultat des courses, donc, ce dossier-là va à nouveau être traité par le CSA. Il sera intéressant de voir si, finalement, le CSA remet en cause le CSA du fait d'une étude réactualisée.
On est donc revenu à la case départ. Le CSA doit à nouveau trancher sur le sort de LCI et Paris Première.
Exactement, il va devoir remotiver sa décision, donc avec un nouveau rapport d'impact qui devra rendre public, soumettre à un débat contradictoire avant finalement de rendre sa décision. Et peut-être va-t-il changer d'avis, car en plus d'avoir fauté dans la procédure, le CSA avait, semble-t-il, pas tout à fait vu juste sur le fond, puisque un an après, la plupart des arguments qu'il avait développés semblent caducs. Écoutez l'analyse de Julien Belvert, qui a suivi le dossier pour PureMedia.com, dont il est le cofondateur et le rédacteur en chef.
Le premier, c'est le marché publicitaire. Le CSA nous disait il y a un an qu'il était, qu'il était en baisse, c'était le cas. En 2014, il a baissé de 2%, mais en 2015, il a tendance à remonter un petit peu. C'est pas plus 10%, c'est pas plus 15%, c'est juste plus 2% sur le premier trimestre, mais c'est un premier signal positif pour le marché publicitaire. Le deuxième, c'est le marché de la TNT qui s'est consolidé. Souvenez-vous, le CSA nous expliquait qu'il y avait beaucoup trop de petits acteurs, notamment la chaîne numéro 23, qui appartenait à un petit groupe indépendant. Aujourd'hui, numéro 23 est en passe d'être racheté par Next Radio TV, qui possède BFM TV. Donc les petits acteurs sur le marché de la TNT, ils sont assez rares aujourd'hui. Troisième changement, c'est la situation de BFM TV. L'année dernière, Alain Veil, le patron de BFM TV, expliquait que la chaîne était fragile. Personne n'y croyait vraiment. Ils ont publié des chiffres début janvier qui sont très positifs. Donc pour toutes ces raisons-là, le CSA va devoir remotiver sa décision s'il venait à refuser une nouvelle fois le passage de Paris Première et LCI sur la TNT gratuite.
Voilà, alors après cette décision, le CSA a d'ores et déjà annoncé eh bien, qu'il avait pris acte et qu'il réexaminerait les demandes de LCI et Paris Première dans un délai de 6 mois.
Eh bien, tout de suite, l'on passe au bref.
Oui, il y en a peu. Il y en a d'abord une, la mort à 74 ans de Walter Weller, figure de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, l'un des meilleurs orchestres du monde, dont il fut longtemps le violon solo, avant de devenir chef d'orchestre. Il a dirigé notamment l'Opéra National de Vienne, le Royal Philharmonic Orchestra de Londres, l'Orchestre National de Belgique et même le Royal Scottish National Orchestra. La Banque d'Écosse avait d'ailleurs fait figurer son visage sur un billet de 50 livres. Il avait aussi fondé le Quatuor Weller.
La seconde brève, eh bien, c'est la fréquentation du musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux qui est en hausse.
Et oui, ce musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux a vu sa fréquentation augmenter de 40 voire 50% cette année.
C'est énorme.
Un chiffre inhabituel et ce grâce à la première exposition consacrée finalement au centenaire de la Grande Guerre. C'est toujours les commémorations. Deuxième exposition annuelle va débuter tout bientôt. Elle est consacrée à la musique. Elle est intitulée « Mon violon m'a sauvé la vie, destin de musicien dans la Grande Guerre ». La boucle est bouclée.
La dernière,
puisqu'on parlait d'évolution des médias, leur apparition, leur disparition, leur transformation, c'est une nouvelle qui m'a été signalée par Benoît Lagan et que je juge bon de vous signaler aujourd'hui, c'est l'apparition d'une web radio.
Si vous mettez à deux pour vos conneries, on va
Radio Divorce. Et oui, Radio Divorce se lance, c'est une radio consacrée comme son nom l'indique. Au divorce,
c'est bien ce que je pense.
C'est le constat d'un charmant juriste, maître Yves Toledano, qui constate que des centaines de milliers de personnes divorceraient chaque année. Ça me semble légèrement excessif en France. Et donc, il propose, je cite, de leur apporter une radio qui leur est consacrée, qui leur apporte une mine d'informations juridiques concrètes, des conseils d'avocats en direct, des émissions interactives et continues. Alors voilà. On va justement avoir toute une liste de choses merveilleuses, donc des émissions de conseils juridiques en droit de la famille, ça on peut s'y attendre, des témoignages de personnes divorcées ou séparées, ça ok. Mais alors plus surprenant, des flashs d'infos divorce toutes les heures, météo, astro, musique, avec entre parenthèses hit des années 80 à aujourd'hui, et surtout des programmes courts sur le divorce, hein, je ne sais pas ce que c'est de fiction. Bref, tout ça c'est un très beau programme, à l'heure où on refait nos grilles d'été à vie, donc aux amateurs.
Tout va bien avec votre compagnon ?
Écoutez-moi pour le moment.
Ou alors c'est un message subliminal que vous lui adressez.
Absolument pas marié, je vous remercie.
J'ai dit compagnon. Vous en avez un ?
Non, il y a plein de gens qui sont sur les royalement, mais royalement.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités ? Eric Ruff, Peter Greenaway. Eric Ruff, il y a quelque chose
Je ne suis pas marié.
Vous voyez, j'ai même pas besoin de poser la question maintenant.
Ça va faire beaucoup d'émoi, monsieur. On va être obligé de le tweeter.
Par rapport à la programmation du Festival d'Avignon, le fait d'insérer comme ça une pièce de caractère social sur ce qui se passe aujourd'hui.
Tant mieux. Ils réagissent avec beaucoup de rapidité, mais le théâtre, il est là justement pour donner un petit peu de recul. C'est une triangulation qui nous permet de regarder un petit peu d'un peu plus loin, sans doute d'un point de vue un peu plus intelligent. Donc tant mieux que le théâtre s'en empare. Oui.
Peter Greenaway, vous êtes marié ? C'est une plaisanterie.
Oui.
Oui, vous voyez, il y en a quand même un autour de cette table qui est marié. Peter Greenaway, peut-être un commentaire à ce que vous venez d'entendre. Tout a été traduit en direct par Pascal Fougère. Est-ce qu'il y a un dossier sur lequel vous voulez intervenir ou alors on commence ?
Je pense que mes commentaires ne seraient pas suffisamment sophistiqués pour la compagnie qui est autour de cette table.
C'est un compliment trop fort. Ils sentent le cynisme.
Le rendez-vous.
Dear Stalin, you may have heard that I have taken the job of financing a moving picture which the Soviet director Sergei Eisenstein is making in Mexico.
Ten days that shook the world. I shall consider these 10 days as the 10 days that shook Eisenstein.
Plateau, un génie en cache un autre avec vous, Peter Greenaway, cinéaste et plasticien britannique, l'auteur bien sûr en 82 de Meurtre dans un jardin anglais, Le ventre de l'architecte, Le cuisinier, Le voleur, sa femme et son amant, The Pillow Book. Vous êtes de passage à Paris actuellement pour Que Viva Eisenstein, votre dernier film qui sortira le 8 juillet. Il était en compétition dernièrement à la dernière Berlinale. On est en 1931, le cinéaste russe Sergei Eisenstein est en voyage au Mexique, pris en tenaille entre Hollywood, qui l'a envoyé là-bas pour tourner le film de la dernière chance, qui sera Que Viva Mexico, et l'URSS qui le somme de rentrer au pays. Le réalisateur du cuirassé Potemkin s'installe à Guanajuato pendant 10 jours, 10 jours qui vont complètement modifier sa vie et sa vision du cinéma. On y reviendra. Je sais que vous avez découvert son cinéma à l'âge de 17 ans avec le film La Grève. Qu'est-ce qui vous a fasciné à l'époque autant pour que vous disiez avoir découvert votre premier héros de cinéma, Peter Greenaway? Traduction, Pascal Fougère.
Alors je pense qu'est-ce qu'on avait, on a eu 120 ans de cinéma, de 18 ans 95 à 2015, est-ce que ça valait vraiment la peine? Je crois qu'il y a très peu de cinéastes qui pourraient correspondre à cette vision du cinéma comme le 7e art, mais si on faisait une liste, je mettrais en avant Sergei Eisenstein qui est une des personnes qui a été l'un des réalisateurs qui travaillait dans la décennie la plus influente pour le cinéma, les années 20. Et je crois que le film que nous avons fait est effectivement un hommage à ce formidable réalisateur qui a introduit la notion de la poésie dans un cinéma qui était très axé sur la narration. Il avait certainement surpris des Américains en étant très très violent, en ayant le plus de plans possible par une minute. Il avait surpris les Américains. Et puis, je pense aussi que le sujet de son film le plus célèbre, Le cuirassé Potemkin, hein, parle d'une mutinerie. Et ça n'avait pas particulièrement réjoui les Américains. Mais je pense que les Russes étaient également peu contents du film que l'on a fait, puisque d'une certaine manière, les Russes voient Eisenstein comme une icône. Hein, et dans ce film, effectivement, dans le film, il parle beaucoup, mais il est un être humain normal hein, qui défait et qui pisse dans le film. Hein, et donc, ce trésor national ne m'intéressait pas pour faire une hagiographie. Ce qui m'intéressait, c'était de faire un film pour montrer que Eisenstein était un être humain et qui pouvait avoir toutes les autres émotions des humains, du haut en bas.
Eric Ruff, quelle peut être la place d'Eisenstein dans votre propre panthéon cinématographique?
Je suis très peu féru de cinéma. Très très peu.
Ça c'est quand même intéressant parce que généralement quand on invite des cinéastes, ils vont peu au théâtre.
Oui.
Et donc le contraire est vrai aussi.
Le contraire est vrai aussi, absolument. Il y a quelque chose de la salle de théâtre qui m'émeut énormément. Il y a une chose de la salle de cinéma que je ne comprends pas, tout bêtement. J'adore l'image et j'adore regarder des films, mais très très peu dans le cadre d'un cinéma.
Vous savez pour quelle raison ?
Je ne suis pas convoqué. J'ai l'impression de ne pas être convoqué. Tandis qu'au théâtre, j'ai l'impression d'être convoqué au milieu d'un cheptel humain qui, voilà, il y a quelque chose.
Vous comprenez cette distinction, Peter Greenaway ? Vous-même metteur en scène et cinéaste ?
Alors, je ne vais pas non plus beaucoup au théâtre. Je pense qu'il y a tellement de mauvais théâtre. J'ai le sentiment que la notion, en fait, de cette espèce de suspension de la non-croyance est beaucoup plus présente au cinéma. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi, Eric Ruff, qu'il y a beaucoup de mauvais théâtre. Il y a aussi, d'ailleurs, beaucoup de mauvais
films aussi, des deux côtés. On a bien fait de vous inviter ensemble. Benoît Lagarde.
Alors, pour écrire ce film, vous avez lu Peter Greenaway tout ce qui concernait la vie de Sergei Eisenstein. Et une des thèses de votre film, c'est que ce voyage au Mexique va permettre au cinéaste de changer de point de vue. Et là, vous distinguez deux temps dans sa cinématographie. D'un côté, La Grève, Le Cuirassé Potemkin et Octobre. Et puis de l'autre, Alexandre Nevsky et les deux Yvan le Terrible. Deux périodes où il a radicalement changé sa façon de réaliser. C'était pour vous, dites-vous, un grand mystère esthétique. Comment avez-vous réussi à élucider cette question ?
Well, you're absolutely right. I think my thesis, alors, vous avez tout à fait raison. Je pense que ma thèse n'est pas particulièrement originale. Hein. Les trois grands films, hein, donc La Grève, Le Cuirassé Potemkin et Octobre, sont très très différents de Alexandre Nevsky et puis La Conjuration des Boyards. Je pense que son expérience hollywoodienne, hein, c'est toujours surprenant qu'Eisenstein ait été invité à Hollywood. Mais je pense que effectivement, c'est ces trois années qu'il a passées en dehors du dialectisme ou de la dialectique soviétique, hein, quelque chose effectivement, cette séparation comme ça du lieu premier qu'on pourrait utiliser partout. Par exemple, cette relation homosexuelle qu'il va avoir avec un jeune anthropologue dans la ville de Guanajuato est quelque chose qui est associé à la mort. Ces deux grands thèmes d'Eros et Thanatos, hein, qui sont indiscutables. Et je crois que c'est quelque chose qui vraiment lui a éclaté au visage, hein, c'est-à-dire d'Hollywood à Mexico, il y a un choc énorme. Et donc, il y a une bien plus grande sophistication dans ses derniers films sur la question des émotions. Hein. Les trois premiers films montrent des grands mouvements de films, de foule, pardon, et effectivement, il avait été engagé à Eisenstein pour faire des films de propagande, et il peut y avoir des grands artistes qui font de la propagande, hein, comme Michel-Ange avec la Sixtine, et d'une certaine manière, on ne peut pas s'en plaindre.
On retrouve dans le film votre travail sur les corps nus, et je repensais à une curieuse déclaration que vous aviez faite à l'époque de The Pillow Book. Vous disiez « Je suis darwiniste, le corps, je le regarde dans son évolution, je l'ai toujours regardé d'une façon neutre, c'est ce qui révulse certains, qu'il soit masculin ou féminin, jeune ou vieux, beau ou vilain, vivant ou mort, de l'extérieur ou à l'intérieur. D'où vous vient, alors même que vous êtes peintre à l'époque, ce regard neutre sur le corps ?» Peter Greenaway.
Je suppose que les origines viennent de ma formation dans une école d'art pendant 4 ans. Et effectivement, pendant 4 ans, hein, c'était très habituel de dessiner d'après modèle. Hein, et donc, il y avait ce caractère comme ça physique du corps humain. C'était quelque chose qui était absolument non sensationnel pour moi. Hein. Je ne sais pas, mais voilà, on a tous un corps, comme toutes les personnes autour de cette table, hein, et c'est quelque chose que nous partageons tous, comme Eros et Thanatos, ça a à voir avec notre début et notre fin. Et je pense que si on regarde tous les arts, si on regarde dans le théâtre, mais surtout la peinture, hein, c'est deux grands sujets, en fait, qui nous préoccupent tous, que l'on soit une nonne ou un tueur en série.
Alors en parlant de ça, vous aviez évoqué par le passé un projet de film pornographique que vous souhaitiez tourner au Brésil avec des comédiennes françaises et notamment Juliette Binoche. J'imagine qu'elle a refusé. C'est toujours d'actualité. Et c'était quoi ce projet ? Et pourquoi Binoche ?
You're being sensational all over again.
Ah, vous faites du sensationnalisme et vous croyez à la mythologie cinématographique. Cette information est absolument fausse.
Ah,
vous avez écouté les Russes.
Les Russes ? Pourquoi les Russes ?
Ce n'est pas vrai. Alors, on fait un film sur Bosch, Hieronymus Bosch en Argentine, hein, mais voilà, les caractéristiques de vos questions ne font pas partie de mon programme.
Ni Juliette Binoche.
Absolument
pas.
Benoît.
Alors pour ce film, vous avez longtemps hésité à faire un film documentaire sur la tentative d'Eisenstein de tourner Que Viva Mexico. Mais finalement, la dimension documentaire reste présente dans la forme même de votre film, puisque la structure formelle de Que Viva Eisenstein s'apparente, je vous cite, à un triptyque en cinémascope. En quoi cette démarche plastique répond à vos interrogations documentaires, Peter Greenaway?
Well, I would argue that there's no such thing as history. There's only historians.
Il n'y a pas d'histoire. Il y a des historiens, principalement, la plupart étant des menteurs, comme on le sait. Et l'histoire n'est qu'un qu'une branche de la littérature. Donc, il y a une énorme possibilité de choix et de manœuvre là.
Qu'est-ce que vous reprochez au documentaire, qui a été pendant des années d'ailleurs un des fleurons du cinéma britannique?
Well, yes, I think you're talking about that boring English tradition.
Alors, je crois que vous parlez de cette très ennuyeuse traduction anglaise. Alors, Truffaut a suggéré que le cinéma anglais était deux termes contradictoires. Ça n'existe pas, le cinéma anglais. On a une industrie télévisuelle très forte. Et c'est vrai que avant que Madame Thatcher ne démantèle la télévision, nous faisions les meilleurs documentaires en Europe. Mais maintenant, pour faire un documentaire, il faut que vous donniez un script. Est-ce que ça ne vous semble pas ridicule de donner un script pour un documentaire? Et effectivement, c'est la manière dont les affaires marchent. Mais la différence entre un film de fiction long-métrage et un documentaire a à voir avec la paperasse, en fait.
Quel genre de peinture vous faisiez au début des années 60, dans les années 60?
I was at art school in London.
Alors, j'ai fait une école d'art à Londres où les gens aimaient David Hockney et l'un de mes profs était Francis Bacon. Donc, je pense que ça vous donne une certaine idée, hein, de en quoi nos cours consistaient. Il y avait un mouvement général vers le pop art anglais. On était très excités par l'abstraction américaine ne fonctionnait pas très bien. Donc, c'était beaucoup sur la réintroduction de la figuration, en fait. Mais je pense que si je fais un pont avec la question, je fais un cinéma qui est très baroque, hein, plein de trucs, avec des idées, et qui est très riche, je pense, d'un coin à un autre, un peu une antidote à ceci. Hein. Ma peinture est très dépouillée, elle donne des figures, elle travaille sur le plan, sur la question des schémas, comme vous l'avez vu, voilà, peut-être dans, je fais des listes, ça me passionne, et donc effectivement ma peinture a à voir avec cette réalisation de listes.
Vous commencez le cinéma au milieu des années 60, quel était le cinéma que vous vouliez inventer, et est-ce qu'il s'inscrivait contre un autre cinéma, Peter Greenaway?
Je pense que l'Angleterre est toujours un désavantage énorme parce que nous parlons la même langue que les Américains. Donc évidemment, le cinéma britannique a à voir avec ce que représente Hollywood. Hein. Donc dans les années 60, évidemment, on regardait vers l'Ouest, hein, et c'était quelque chose, moi, qui m'intéressait assez peu. J'avais envie de regarder vers l'Europe, en fait. Et je dirais que matière de thème avait à voir avec la nouvelle vague, hein, qui était à peu près contemporaine, hein, puisque je crois que j'ai le même âge que Godard et puis également cette période extraordinaire du cinéma italien. J'étais pas tellement inscrit dans la tradition du documentaire parce que elle disait beaucoup de mensonges et j'étais pas non plus très intéressé par le cinéma américain qui disait tout autant de mensonges. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment le cinéma européen.
Tout à l'heure, Eric Ruff, vous disiez que vous alliez peu au cinéma, vous aviez une certaine défiance par rapport à ce médium. Pour autant, vous avez joué dans quelques films, 14 rôles en 20 ans.
Oui.
Vous préférez être acteur que spectateur de cinéma, alors?
J'ai été 14 rôles en 20 ans, c'est pas
beaucoup. C'est pas énorme, en effet. Énorme. Ouais, ça veut dire qu'il y a même une résistance. Non, non.
Et pour être tout à fait honnête, je n'ai rien refusé. Donc je ne sais pas si c'est plutôt le cinéma qui a peut-être un problème avec mon talent que l'inverse, mais le théâtre est ma passion, donc voilà, c'est ma passion première. J'ai toujours adoré faire du cinéma parce que c'est une expérience autre, mais la responsabilité qu'a un acteur au théâtre est infinie par rapport au cinéma.
Benoît.
Alors chaque soir, nous demandons à nos invités de choisir un son qui les a marqués. En ce qui vous concerne, voici ce que vous aviez envie d'écouter.
Non, 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 non. Je ne connais pas la suite, je ne vous connais pas. Je ne connais pas cette chambre, ce lit ridicule, cette cheminée avec son miroir.
Quel miroir? Quelle cheminée? Que dites-vous?
Oui. Je ne sais plus. Tout cela est faux, je ne sais plus.
Si c'était faux, pourquoi seriez-vous là? Comment était ce miroir?
Il n'y a pas de glace au-dessus de la cheminée. C'est un tableau. Un paysage, je crois. Un paysage de neige. La glace est au-dessus de la commode. Il y a aussi une coiffeuse à miroir. Et d'autres meubles encore. Évidemment.
Évidemment.
Identification de ce son, et puis pour quelle raison vous l'avez choisi?
Peter Greenaway.
Alors, je crois que c'est la seule actrice française que je peux absolument comprendre, parfaitement comprendre, parce qu'elle parle français avec un accent britannique. Et j'ai toujours pensé que l'année dernière, Marianne Bad était l'un des films les plus extraordinaires qui avait été fait pendant une période particulière du cinéma français. Alors, donc, c'est voilà, un film qu'on déteste, qu'on adore. Je l'aime. Parce que c'est un film extrêmement abstrait, parce que chaque personne a une lettre avec laquelle on peut s'identifier. Et c'est aussi un film sur la mémoire, sur les trucs de la mémoire et la non-croyance qu'on peut avoir en la mémoire personnelle. Et j'ai travaillé, donc je suis contre l'écriture des scripts, mais voilà, dans ce cas-là précis, il y avait un écrivain pour le scénario et on sait tous qui il était.
Est-ce que Meurtre dans un jardin anglais doit quelque chose justement au jardin et au château de l'année dernière à Marianne Bad, Peter Greenaway?
Évidemment, vous avez tout à fait raison. Et mes jeunes années comme réalisateur, j'ai constamment essayé, je crois, d'essayer de faire un film comme Alain Resnais, comme ce film extraordinaire d'Alain Resnais. Je ne crois pas que ce soit vrai encore aujourd'hui, mais ça faisait partie de mes premières années de cinéma.
Alors, on a une autre information, mais peut-être qu'elle est aussi russe, c'est-à-dire aussi fausse que le reste. Benoît ?
Vous aviez un projet de film, vous avez un projet de film sur les voyages russes d'Alexandre Dumas avec Gérard Depardieu. C'est un projet toujours prévu.
Et Juliette Binoche.
Ne parlez pas de Juliette Binoche, Laurent.
Again, Ministry of Misinformation.
Ah, encore, voilà,
le coup des Russes.
Ministère de la désinformation.
Dès qu'on donne un nom d'acteur français, ça marche pas.
Alors, vous allez bientôt marquer plus de points que les Russes. Donc, c'est vrai qu'on commence à réfléchir à un projet sur Alexandre Dumas. On sait qu'il est allé donc sur le long de la Volga en 1858 et il y a des raisons, bien sûr, à se livrer à ce voyage pour comparer ce que Dumas a vu et ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, voilà, le projet est vraiment dans les limbes encore et est-ce qu'on aura de l'argent pour le faire? Ça, c'est une question. Mais de toute façon, je ne vais certainement pas utiliser Gérard Depardieu, en tout cas, je le crois. Très bien connu en Russie actuellement pour faire des publicités pour des meubles de salle de bain.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
Peter Greenaway et Eric Ruff, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, la chronique de Jean-Marc Lalanne, le mercredi, c'est cinéma, et aujourd'hui, Orson Welles.
Orson Welles, c'est un double anniversaire, c'est à la fois le centenaire de sa naissance, et c'est aussi l'anniversaire des 30 ans de sa disparition, puisqu'il est mort en 1985, à l'âge de 70 ans. Donc du coup, l'actualité, elle est énorme, il y a à la fois des DVD qui ressortent, des livres, il y a la rétrospective de la Cinémathèque française, mais aussi une rétrospective à l'Institut Lumière Lyon et de Lyon, et aujourd'hui, il y a La Dame de Shanghai qui ressort en salle. Bientôt, il y aura Falstaff. Donc, ça va être un peu un été Orson Welles. Ce qui, à mon sens, intervient, disons, dans un drôle de timing, parce que j'ai l'impression qu'Orson Welles n'est plus complètement au cœur du désir cinéphile contemporain, ou que sa valeur d'usage dans le cinéma contemporain a déjà été plus forte ces dernières décennies qu'aujourd'hui. Et en même temps, c'est une œuvre qui n'a cessé de connaître d'énormes variations de reconnaissance, puisqu'à la fois c'est une œuvre qui commence lorsque Orson Welles a 25 ans avec un premier film, Citizen Kane, qui le propulse à la dimension de génie international, un film qui reste pendant des décennies le premier film de tous les classements de critiques de cinéma. Et en même temps, très vite, Hollywood le place à la périphérie de l'industrie. Il est pourchassé par le fisc. Il s'en va en Europe et il est contraint à faire le tour des guichets européens pour des montages financiers de plus en plus acrobatiques. C'est comme ça qu'il va faire ses adaptations de Shakespeare. Et pour la moitié de ses projets ne vont plus pouvoir se faire. Donc vraiment une carrière en dents de scie. Avec cette particularité qu'en devenant tout de suite une légende, l'un nourrissait l'autre. C'est-à-dire que plus il devenait une légende et plus il faisait peur à l'industrie, et en même temps plus il faisait peur à l'industrie et plus dans la cinéphilie européenne,
il devenait une légende.
Il construisait son mythe. Alors je pense que le premier héritier, autoproclamé d'Orson Welles, c'est Kubrick. À la fois, je pense, pour des raisons, on peut dire que Kubrick a imité le vocabulaire visuel de Welles, par exemple par l'usage du grand angle, par une certaine façon de cadrer, par le jeu sur la profondeur de champ. Et en même temps, je pense que ce mythe du génie est aussi quelque chose qui profondément a nourri la façon dont Kubrick a mené sa carrière. Et en même temps, moi, je dirais que toutes les raisons pour lesquelles j'adore Welles, c'est tout ce qu'il oppose à Kubrick. C'est-à-dire que Welles, c'est le contraire d'un cinéaste de la maîtrise. C'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment contrôlé la carrière et pour qui chaque tournage a toujours été une aventure. Et je pense que si il y a un usage monumental qui a été fait de l'œuvre de Welles, par exemple par Kubrick, mais aussi par le vidéoclip qui a énormément pillé la puissance plastique, la force de plasticien de Welles, je pense que ce qui est intéressant chez Welles, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire ses points de faiblesse et la façon, par exemple, dont l'œuvre rétrécit en avançant. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est plutôt l'œuvre tardive. C'est des films comme Une histoire immortelle qui sont vraiment faits dans des conditions de dramatique télé ultra fauchées. Et plus ça se contracte, plus ça se rétrécit, je pense que son génie s'exprime. Et plus ça ressemble à du très mauvais cinéma, à de la série Z, à des sérioles ultra fauchées, et plus son génie s'exprime à plein régime. Et je pense qu'il y a un cinéaste qui a une intuition critique absolument génial sur Orson Welles, c'est Tim Burton, qui en 1995, dans son film qui s'appelle Ed Wood, et qui, avec Johnny Depp dans le rôle principal, raconte la vie du cinéaste Edward Wood, qui avait été élu comme le plus mauvais cinéaste de l'histoire du cinéma, et qui faisait des films SF invraisemblables, enfin avec des décors de traviole qui partaient dans tous les sens. Il imagine dans Ed Wood, Tim Burton, une rencontre entre Ed Wood dans un café à Los Angeles avec Orson Welles. Donc c'est évidemment un gag, puisque c'est le cinéaste reconnu comme le plus mauvais de tous les temps, qui rencontre le plus grand mythe de génie absolu du XXe siècle. Et en même temps, les deux hommes parlent, ils s'entendent très très bien, ils se parlent vraiment comme des collègues. Et il y a cette intuition que je trouve très très fine sur Welles, qui est que le point le plus fort de son génie, c'est le moment où ça frôle ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle, disons, culturelle du cinéma, et que son génie d'avoir réinvesti ces formes-là pour les traverser par la puissance de son style et de sa pensée.
Un commentaire, Peter Greenaway, sur cette lecture de l'œuvre de Welles.
C'est l'homme qui, d'une certaine manière, a mené sa vie en marche arrière. Et quand je dis ça, Citizen Kane a été une influence très importante pour moi. Et c'était le film dont on disait qu'il était le meilleur film de tous les temps. Et je crois qu'il a perdu.
C'est pas du tout ennui, Vertigo.
Yeah. Voilà. Et donc, effectivement, j'avais raison, c'est bien l'ennuyeux Hitchcock qui a pris cette position.
Vraiment iconoclaste.
Le rendez-vous.
Faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur. Et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut, parmi le monde, une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sobre avec sobriété.
Plateau changement de décor avec vous, Eric Ruff, comédien, metteur en scène, scénographe, on y reviendra. Et depuis le 16 juillet 2014, administrateur général de la Comédie Française. Vous y étiez pensionnaire depuis 1993 ouais. Et puis sociétaire en janvier 1998. Lundi dernier, vous avez présenté la nouvelle saison qui commencerait avec « Comme une pierre qui ?» 3 points de suspension, d'après l'œuvre de Grêle Marcus, dans une mise en scène de Marie Raymond et Sébastien Poudreau. Qu'est-ce qu'une telle entrée en matière dit de votre vision pour la Comédie Française aujourd'hui?
Des mariages entre de jeune metteur en scène, pour le coup, Marie est très jeune et Sébastien également, et puis la volonté d'écouter un petit peu leurs désirs de génération, sur quoi elles veulent travailler, et Marie-Raymond, pour le coup, a fait des spectacles absolument magnifiques et improbables. Elle a fait un spectacle très joli sur les mémoires d'André Agassi. Donc comme je savais qu'elle était assez spécialiste des ovnis, je lui demandais de faire une proposition, et c'est elle qui est venue avec cet assez joli texte qui raconte en fait l'enregistrement, les différentes prises qu'il y a eu sur cette chanson, avant qu'elle ne devienne ce titre mythique. Il y a eu beaucoup de difficultés à l'enregistrer pour des raisons de musiciens qui étaient convoqués au pupitre, pas du tout au même moment, etc. Sur le fait que Bob Dylan lui-même ne savait pas exactement ce qu'il voulait. Et on voit au cours de ces enregistrements à quel point la création est faite d'autant de volontarisme que de foutu imprévu.
Je vous sais très attentif à la nouvelle génération qui arrive, de metteurs en scène, d'acteurs et même de métiers de techniciens. Je me demandais comment vous regardiez depuis quelques temps, depuis on va dire peut-être un peu moins quand même d'une dizaine d'années, l'éclosion, la nouvelle éclosion de collectifs de metteurs en scène. Vous qui en avez fait partie début. Éric Ruff.
Je regarde ça avec un sourire que me confère mon grand âge maintenant, mais parce que j'ai fait aussi... J'ai eu une compagnie qui s'appelait la compagnie d'Edwin, qui est devenue le collectif des possédés. Voilà, c'est des gens qui travaillent beaucoup à la colline chez Stéphane Braunschweig actuellement.
Rodolphe Dana.
Oui, Rodolphe Dana. On appelait ça des compagnies. Voilà, maintenant c'est devenu des collectifs. Mais je crois que c'est un peu la même chose. Pourquoi est-ce que ça se fait? Je me demande toujours pourquoi les jeunes gens n'abordent pas frontalement les textes et tournent autour comme s'il y avait une espèce de refus d'obstacle. Et puis quand je reviens en arrière, c'est exactement ce que j'ai fait aussi.
Donc, c'est exactement ce que vous aviez fait aussi.
Ouais, absolument. J'avais commencé, moi, par un spectacle qui était basé sur le dictionnaire de la marine à voile, où on avait découvert des mots qui étaient absolument désuets pour nous, mais qui étaient de notre langue maternelle. Et on avait, par consonance et assonance phonétique et poétique, inventé tout un langage. Donc on tournait autour de la langue, on tournait autour du corps du texte, sans vouloir le faire, par souci de liberté, par sans doute refus d'obstacle, comme je dis, bon... J'ai l'impression que ça se refait simplement, puis ça devient un petit peu des modes et voilà. C'est quelquefois une difficulté parce que quand on veut aller chercher un metteur en scène, on se dit mais c'est lequel dans ce collectif? Je crois que même le ministère de la Culture, quand il veut essayer de faire monter des gens qui vont prendre des lieux, a le même souci d'imprécision.
Émilie Chaudet.
À partir de la rentrée, Éric Ruff, vous ne jouerez plus pour vous consacrer uniquement à votre fonction d'administrateur. Oui. Vous mettrez en scène, en revanche, Roméo et Juliette. Mm-hmm. Pourquoi vous interdire le jeu?
Je ne me l'interdis pas du tout, mais j'ai plusieurs casquettes et ça prend beaucoup de temps d'administrer cette maison. Et puis tout bêtement, l'administrateur est une sorte de rouage entre la Société des comédiens français, qui existe depuis Molière, et puis l'État nourricier. Et je crois que ça a un besoin d'insularité assez grande d'être administrateur, donc je voulais pas avoir maille à partager toujours avec les acteurs. C'est-à-dire que si je me programme moi-même et que je programme les autres en même temps, c'est un petit conflit d'intérêts qui est tout à fait possible, mais que je trouve un peu grattant. Voilà.
Donc on le disait, vous allez mettre en scène Roméo et Juliette, ouais. Donc ces prochains mois. Vous ne l'avez jamais joué, Roméo, vous qui avez collectionné, dites-vous, les rôles de jeune premier. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous de mettre en scène cette pièce?
Un sacré pari. Cette pièce, elle est intéressante parce qu'elle a une réputation qui n'a rien du tout à voir avec sa réalité. Le 19e est passé par là et a mis une espèce de couche de romantisme sur une histoire d'une rare violence. Vous demandez à n'importe qui dans la rue, est-ce que tu connais Roméo et Juliette? Tout le monde va dire oui, et quand on lui demande de citer une représentation manifeste, éventuellement au cinéma, on trouve. Par contre, au théâtre, on a du mal. C'est une pièce fantôme. Les gens sont persuadés que c'est une histoire d'amour. Alors si c'est une histoire d'amour, elle est dans une proportion extrêmement maigre par rapport à ce que ça raconte, de la haine, des gens qui se tuent pour des raisons qu'ils ont oubliées depuis longtemps, enfin les vendettas, c'est le Shakespeare beaucoup plus de Macbeth que d'un autre, donc il m'intéresse d'essayer de redonner cette pièce dans une acception un peu plus large que ce qu'en pensent les gens.
Comment vous comprenez que justement, depuis tout ce parcours, vous n'ayez jamais joué ce rôle, alors même que vous avez enchaîné les jeunes premiers? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce rôle-là? Une sorte d'interdit?
Non. Je crois, alors ça c'est pure interprétation de ma part qui me dédouane un peu, mais On a du mal avec Shakespeare en France. C'est une langue qui n'est pas facile pour le français. J'ai toujours l'intuition quand il est dit en allemand, en anglais évidemment, mais dans d'autres langues, il a un rustique qui lui convient. Et en français, ou bien on est dans la poésie pure et on oublie le concret de la langue, ou bien on est dans le concret de la langue et on oublie la poésie. Je ne sais pas si Claudel est très facilement traduisible en anglais, mais j'ai l'impression que l'aller-retour doit être aussi difficile. Donc ça n'a pas été monté depuis très longtemps, puis on ne monte pas énormément de Shakespeare. Aussi, je crois, parce que les ors de la salle Richelieu, les Atlantes qui entourent la cage de scène sont pas tout à fait pour ce... Quand on joue Shakespeare, on n'arrête pas de faire le commentaire avec le citoyen d'en face, avec le public d'en face, on fait le commentaire de ce qu'on vient de faire. On sort du jeu tout le temps. Mmh. Et quand on est sur un nez de scène, entouré par autant d'or, etc., il y a quelque chose... On est hiérarchiquement pas au même niveau que les gens. Donc ça passe un petit peu plus mal.
Alors comment vous allez contourner ce piège ? Vous allez mettre en scène.
Je vais essayer de travailler beaucoup sur la langue. D'ailleurs, je ne sais pas encore, et c'est symptomatique, je ne sais pas encore quelle traduction prendre, tellement je trouve que c'est un problème essentiel.
Et commander une nouvelle traduction ?
Éventuellement. Je ne sais pas. J'aborde cette pièce aussi par le biais de la scénographie. En fait, j'ai relu cette pièce parce qu'on m'a demandé il y a quelque temps d'y réfléchir en tant que scénographe. Et puis finalement, le scénographe a appelé le metteur en scène et voilà. Mais
et alors justement, au niveau de la scénographie, qu'est-ce qui s'est joué pour vous avec cette pièce ?
Il s'est joué, par exemple, une chose où Shakespeare, c'est un fou furieux. Il y a des répliques, par exemple, le tombeau à la fin, le caveau, ouais, qui est une sorte de voyage organisé, tellement il y a de cadavres à l'intérieur. Shakespeare fait dire d'un personnage, attention à ne pas glisser, tellement il y a de sang sur les marches. Cette chose-là, je me dis, tiens, c'est pas une didascalie, c'est vraiment une réplique. Ça suppose une espèce de... J'ai pensé évidemment à la reine Margot, est-ce que pouvait faire Chéreau dans le lourd décor comme ça, qui poisse à travers les draps, je me suis dit, mais c'est assez incroyable. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à la manière d'amener ce sang-là, alors que généralement, j'aime pas beaucoup le sang au théâtre. Je trouve ça, c'est généralement des metteurs en scène en manque d'adolescence qui envoient des seringues pour faire comme au cinéma, justement, alors qu'on a très peu de moyens. Mais je pense au sang sur le fait que de temps en temps, on s'étonne qu'un corps ait autant de sang en lui. Enfin, là, c'est dans cette vertu-là. Donc, j'ai pensé à une scénographie totalement blanche pour que ce trou rouge au côté droit, tout d'un coup, apparaissent d'une manière forte.
À quel moment vous êtes mis à travailler ou peut-être à retravailler la scénographie ? Parce qu'au départ, il y a une formation en art appliqué, je crois.
Oui, absolument. J'ai fait des croquis de nu comme Monsieur Greenaway pendant quelques années aussi. C'est revenu parce que j'ai eu une compagnie, donc dépossédée, avec laquelle je n'avais pas de scénographe, j'avais pas de sous pour avoir un scénographe. Et comme j'étais celui qui dessinait ou qui crobardait le mieux et qui finalement bricolait le mieux, j'ai une histoire de boulon, de tonon et de mortaise, j'ai commencé à travailler comme ça et j'ai fait des décors que je ne disais jamais être les miens parce que c'était de la débrouille. Et c'est en fait quand Denis Podalydès, qui avait vu un de ses spectacles, Denis m'a proposé pour le Cyrano de Bergerac.
En 2006.
Voilà, qui était, et qu'on reprend d'ailleurs la saison prochaine. Il m'a proposé de faire des décors, donc je suis devenu scénographe parce que c'est la première fois que je faisais des décors pour une mise en scène qui n'était pas de moi. Donc c'est revenu comme ça, et puis ce travail était salué. J'ai eu la chance de travailler avec les ateliers de la Comédie Française, et ça n'est pas rien comme aide. Et puis c'est devenu un second métier qui me passionne absolument.
Émilie.
Justement, vous avez aussi travaillé avec Denis Podalydès sur la scénographie de Lucrèce Borgia.
Oui.
Et Denis Podalydès, vous en a dit en guise d'indication, c'est comme un bijou vénéneux dans la nuit.
Oui.
Vous travaillez toujours par énigme avec lui ?
C'est lui qui donne ce genre d'énigme.
Oui, comment vous avec ça ?
Je le connais bien. Je le connais bien, le bougre. Il ne travaille que comme ça parce qu'il a aucune technique, Denis, pour le coup. Donc, il me fait une absolue confiance, ce qui m'honore, mais ce qui peut me contraindre, c'est toujours un peu effrayant. Il travaille par énigme, mais je crois savoir, le connaissant, qu'est-ce qu'il va chercher au milieu de tout ça. Voilà. J'ai gardé de ça le fait que toute la scénographie est noire. Voilà. Et que le buste, le corsage, tout d'un coup, de Lucrèce Borgia peut apparaître comme un ivoire, comme ça, au milieu de la nuit.
L'événement de cette rentrée aussi, c'est la première mise en scène d'Arnaud Desplechin.
Oui.
Le texte, c'est Père d'Auguste Strindberg. Mmh. Vous lui aviez proposé de travailler donc pour la Comédie Française, alors même que vous jouiez dans son dernier film, Trois souvenirs de ma jeunesse. Qu'est-ce que vous aviez remarqué dans son travail de cinéaste pour que vous lui fassiez cette proposition ?
J'avais remarqué surtout un film extraordinaire qu'il a fait avec la Comédie Française, où il a fait la captation réorganisée, refaite des années après, de la forêt d'Ostrovski.
Pour la télévision.
Voilà, qui avait été montée par Piotr Fomenko. Et c'est un travail qui se fait en 14 jours, donc ça va à une vitesse absolument folle. Il y avait dedans Denis Podalydès et Michel Viermoz, qui sont des acteurs qui travaillaient avec lui depuis des années, qui m'avaient dit le bonheur qu'ils avaient eu à le retrouver à ce moment-là. Et voyant le film, ça vaut Vania 42e rue, c'est-à-dire le maillage entre le cinéma, le théâtre dans ce film, et je trouve extraordinaire. Et je me suis dit, mais c'est un metteur en scène de théâtre. Et je le savais être un spectateur de théâtre extrêmement éclairé et ancien. Donc j'ai fini par lui proposer, et je crois, quelque chose me dit qu'il attendait une proposition un jour, parce que c'est quelque chose qui le travaille profondément, et ses œuvres de cinéma sont déjà des pièces de théâtre.
Quel directeur d'acteur, d'ailleurs, a-t-il été avec vous sur le tournage de Trois souvenirs de ma jeunesse ?
D'une efficacité rare, d'une empathie avec les acteurs incroyables et d'une autorité sur son équipe insensée. J'avais le souvenir, mais alors ça remonte à très très loin, j'avais fait des essais avec lui il y a, je crois, 25 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais plus pour quel film. Je m'en souvenais, et lui aussi. Mais je me souvenais surtout que j'étais ressorti de ce rendez-vous en disant je n'ai rien compris à ce qu'il me disait. J'avais l'impression d'être face à quelqu'un qui commençait des phrases, qui ne les finissait jamais, qui jonglait devant moi avec des références que je n'avais pas, donc j'étais ressorti absolument penaud et malheureux. Et puis là, quand on a tourné, alors c'est peut-être moi qui ai un petit peu plus de bouteilles, qui comprend mieux les cinéastes, mais j'ai trouvé qu'il était d'une clarté absolument incroyable. Et ça fait 15 jours qu'il travaille là, dans les murs de la Comédie Française, et je peux vous dire que tous les acteurs sont absolument heureux de ce qui se passe, de la profondeur de sa direction, de son et de sa gentillesse, de sa sympathie.
Et vous, quel type de metteur en scène et de directeur d'acteur êtes-vous sur une scène de théâtre ? Vous êtes avec eux sur la scène ou vous êtes depuis la salle, Éric Ruff ? Vous leur mimez tout, vous leur donnez toutes les indications ?
Non. Non, non, c'est bizarre d'ailleurs, parce que dès qu'on passe metteur en scène, on devient très mauvais acteur. Il y a une espèce de cliquet, en fait. Parce qu'on essaye d'indiquer les choses sans que les copains puissent le reproduire, parce que sinon, ils prennent une chose qui n'est pas à eux. Je suis un gros travailleur, mais j'aime beaucoup la joie au plateau. On rit beaucoup, on s'indique des choses. Je cherche.
Émilie.
Vous avez grandi à Belfort entre un père cardiologue et une mère professeure d'anglais.
Oui.
Quel a été votre premier contact avec le théâtre ?
L'école. L'école, je voyais des enseignants tout à l'heure, la Comédie Française, que je recevais pour des partenariats, et je leur disais, vous pouvez pas savoir le nombre d'acteurs professionnels qui ont commencé, pour qui le hameçon s'est accroché à ce moment-là, à l'école. Club poésie, ma grande sœur qui était au lycée avait besoin d'un Gavroche sachant faire du patin à roulette, et j'étais le
couteau suisse.
Idéal, absolument, j'étais le couteau suisse du collège, et voilà. Ça a commencé comme ça, et puis j'ai fait ça jusqu'au bac, et ensuite, quand j'ai fait du dessin, je me suis fourvoyé dans un atelier de publicité surface, où je faisais que du logotype et je comprenais pas du tout ce que je faisais là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a plu ces quelques dernières années? J'avais 20 ans et il m'est revenu, voilà, le théâtre. Pourtant, j'étais pas monté à Paris pour ça, mais tout d'un coup, le théâtre, l'enseignement du théâtre, à quel point c'est propédeutique, à quel point on fait feu de tout bois. Je me suis dit, ben tiens, ça c'est intéressant, et j'y suis revenu par ce biais-là.
Quitte à passer par le dictionnaire de la marine à voile. Absolument. Avec votre compagnie de l'époque. Comme à tous nos invités, eh bien, on vous a demandé un son, Éric Ruff. Et voici ce que vous avez choisi. Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez élu.
Alors, ça n'est pas une charrette qu'on tire au bord d'un chemin de halage.
C'est vrai que ça y ressemble aussi.
Non, le bruit qui m'a Madeleine de Proust à moi, c'est les drisses de bateaux qui tapent sur les mâts quand on dort dans un bateau, dans un port. Le gling-gling-gling-gling-gling avec le bruit du vent et quelques mouettes. J'ai eu la chance avec mon père avait fait les Glénans dans sa prime jeunesse et nous emmenait de temps en temps dans un bateau qui s'appelait un mousquetaire aux îles Scilly. Mon père était un capitaine d'une autorité absolument terrible, donc c'était terrifiant de faire des promenades avec lui, mais la nuit, cette chose-là représente pour moi, et l'enfance et le voyage, ça peut me faire partir. Et puis les mouettes, on en a quelquefois dans Paris, on
exactement,
entend une mouette crier au-dessus de la Seine, et immédiatement, et j'ai une maison en Bretagne, et immédiatement j'ai l'impression de partir et de faire un voyage. Je ne suis pas marié.
Well, you're absolutely right.
Je regarde ça avec un sourire que me confère mon grand âge.
Évidemment.
Merci à nos invités. Peter Greenaway, Kevin Eisenstein sortira en salle le 8 juillet. Eric Ruff, vivement donc la rentrée pour la nouvelle programmation de la Comédie Française. L'actualité de cette institution sera sur le site de l'émission et je signale que vous participerez au Marathon des mots à Toulouse le 27 juin.
Absolument.
Sans compter toutes les collaborations à venir entre France Culture et la Comédie Française autour de Tintin, de Racine et même de Simenon. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie
française.
Alors bonne soirée à tous et à demain.
La guerre et la paix de Léon Tolstoï.
Et oui, demain ce sera une émission avec Denis Podalydès, avec à ses côtés Florence Delay. Là des annonces Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Émilie Chaudet, Aïssa Touendoy et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Espèze, chronique Jean-Marc Lalanne, traduction Pascal Fougère, à la prise de son Alex Dang et Clément Daté et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h53, vous êtes sur France Culture, et ben c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie
française.
Non, française. Alors bonne soirée à tous et à demain.